100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. S'il est un point sur lequel tous les Européens s'accordent, c'est que les négociations furent vraiment difficiles. Au terme d'un marathon gréco-européen de 17 heures, un accord a donc finalement été trouvé. Sur la table, 80 milliards de prêts, plus 35 milliards d'euros, qu'on n'appelle pas nouveau plan d'aide, mais programme de croissance. Aménagement de la dette grecque, qu'on ne désigne plus sous le terme clivant de restructuration, mais de reprofilage. Et côté grec, des réformes, des privatisations et des économies. Autant dire que le quotidien des Grecs ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, d'autant que la question de la réouverture des banques n'est pas réglée. Voilà désormais 15 jours que les citoyens ont dû changer leur mode de consommation en laissant tomber le cash pour la carte bleue qu'ils utilisent en règle générale très peu. C'est le reportage à Athènes de Charlotte Stivenard.
Ce matin-là, les rues autour du marché couvert d'Athènes sont pleines. Les retraités se dépêchent de finir leurs courses avant que le soleil ne soit trop fort. Assis à l'ombre, place de la mairie, un couple âgé se repose. Aujourd'hui, ils en ont eu pour 50 euros. Des médicaments et de la viande payés en liquide, explique Maria, l'épouse.
Nous ne payons pas par carte, tout avec de la monnaie, car nous n'avons pas de dépôt à la banque. Seul mon mari a une carte. Il s'en sert pour retirer ses 500 euros chaque mois, sa retraite. Moi, je n'en ai pas besoin car je n'ai pas de retraite.
Son mari préfère ne pas payer par carte car il n'a pas confiance.
Nous avons 80 et 81 ans. Quand on paye avec la carte, ils nous volent, c'est pour ça. Et avec la monnaie, c'est plus simple. Dans cette poche-là, j'ai 1 euro, dans l'autre, 50 euros.
Beaucoup de retraités n'ont même pas de carte bancaire. Ce sont eux qui doivent aller retirer leur pension dans des guichets ouverts spécialement pour eux depuis la fermeture des banques. 120 euros par semaine. Sinon, ils doivent faire une demande pour obtenir une carte. Ils payent donc en liquide dans ces petites boutiques pas toujours équipées en lecteurs de cartes. Dans ce magasin un peu à l'écart, Yota Papagopoulou et sa fille sortent des vêtements de grands sacs noirs et les répartissent sur leurs étagères. Cette semaine, plusieurs clients leur ont demandé de payer par carte bleue, mais elles n'ont plus de machine depuis 2 ans.
Parce que la banque me prend une commission d'environ 7% sur mes ventes, si les gens payent par carte. Et la deuxième raison, c'est qu'en ce moment, elles sont fermées. Donc je ne sais pas quand je pourrai retirer mes sous.
Alors que ces dernières années, sa clientèle n'est plus aussi nombreuse, elle ne peut plus se permettre de perdre une somme aussi importante à chaque transaction. Et surtout, elle n'a pas le pouvoir de négocier un rabais avec la banque, comme le ferait un grand groupe. Après 2 semaines de fermeture, cette situation avantage les chaînes et les grands magasins. Cette gérante d'un supermarché dans le centre d'Athènes court toute la journée. C'est elle qui gère les stocks, envoie les commandes, contacte les fournisseurs. Depuis la fermeture des banques, ses clients se sont adaptés.
Ils utilisent plus la carte bancaire. Avant, nos revenus par carte tournaient autour de 100 euros par jour. Maintenant, c'est 700 euros. Ça montre comment la situation a changé en 2 semaines.
Pour chaque transaction, elle verse une commission bancaire de 1 à 1,5%. C'est grâce à l'association grecque des commerçants détaillants qui a négocié ce taux avec les institutions financières. Elle peut donc se permettre d'avoir un lecteur de cartes. Mais d'habitude, ses clients payent souvent en liquide. En dessous de 500 euros, elle fait la même chose avec ses fournisseurs qui préfèrent ce système légal pour les petites sommes. Mais depuis 2 semaines, tout est fait par virement bancaire. Elle aimerait bien que ce soit tout le temps comme ça, à une condition.
Si les commissions des banques étaient plus basses, ce serait mieux que les gens payent par carte. C'est plus pratique, pas besoin de compter la monnaie, d'aller à la banque, de devoir faire les paiements en liquide. Moins de travail. Tout ce qui est automatique, c'est moins de travail.
Et surtout, cela permettrait de faciliter celui de l'État.
C'est aussi mieux pour le gouvernement, pour les taxes. Tout est légal et vous pouvez tout vérifier et personne n'essaye de tricher. Je pense que c'est du bon sens, mais on a encore du chemin pour devenir des Européens sur certains sujets.
À l'Institut de recherche de la Confédération générale des professionnels, des artisans et des commerçants de Grèce, on souligne qu'acquérir un lecteur de cartes a toujours été difficile pour les petits commerces. Les banques rechignent à leur fournir car ils sont économiquement plus fragiles et parfois endettés. Un phénomène renforcé par la crise et du côté des clients, le chercheur Dimitris Bimpas explique qu'il y a aussi un manque de culture bancaire.
Le problème des ménages grecs, c'est que leur premier contact avec le système bancaire a été l'utilisation des cartes de crédit. C'est un phénomène qui a précédé l'utilisation des cartes de débit. Avec une carte de crédit, on doit parfois payer des intérêts. Et elles ont été très utilisées par les ménages grecs pendant les bonnes années de l'économie. Et ils ont donc payé beaucoup d'intérêts.
Avant la crise, il n'était pas rare de recevoir une carte de crédit dans sa boîte aux lettres, sans l'avoir demandée et sans explication sur son fonctionnement. Comme certains se sont fait avoir, cela a donc créé de la méfiance. Mais Dimitris Bimpas rappelle que la société grecque évolue. Aujourd'hui, les plus jeunes et les plus éduqués utilisent eux aussi beaucoup la carte bancaire et le paiement des factures en ligne se simplifie aussi.
Quand les peines d'intérêt général se transforment en peines d'un intérêt douteux. Il y a quelques semaines, la justice turque a condamné un policier qui avait aspergé de gaz lacrymogène une manifestante du parc Gezi en 2013 à une peine surprenante. Il devra planter 600 arbres et s'en occuper. La sentence a fait couler beaucoup d'encre et c'est loin d'être une exception car les juges interprètent les textes avec une fantaisie certaine à Istanbul, un an de la.
Qui a dit que les juges n'avaient pas d'imagination ? Lorsqu'en plus un article du code pénal turc leur propose, en des termes très vagues, de convertir les peines de moins d'un an de prison en une sanction utile, le résultat est parfois étonnant. À Kayseri, au centre de l'Anatolie, un juge a par exemple interdit à un chauffard récidiviste d'assister pendant 2 mois au match de son équipe de foot. Plus à l'est, à Erzurum, un homme a été privé de ski pendant 3 mois pour avoir agressé verbalement un gendarme dans une station de sport d'hiver. À Edirne, ce sont 2 femmes qu'un juge a empêchées de pratiquer leur occupation favorite. Condamnées pour vol d'électricité, elles ont reçu interdiction de mettre les pieds dans un salon de beauté pendant 3 mois. Prises en flagrant délit de manucure ou de brushing, elles auraient risqué la prison. Tout comme cette grand-mère de 77 ans, accusée elle aussi de fraude au compteur, privée pendant 5 mois de se rendre à un mariage ou à toute occasion festive. Un mari d'Ankara auquel sa femme reprochait un comportement violent et une mauvaise hygiène a quant à lui non seulement été condamné à quitter le domicile pendant 6 mois, mais aussi à son retour à soigner son hygiène corporelle et bucco-dentaire et, je cite toujours, à se montrer aimant envers sa femme et ses enfants. Ces condamnations qui prêtent à sourire font les choux gras de la presse turque qui leur consacre parfois une rubrique à part entière. En les parcourant, on s'aperçoit que les juges aiment aussi distribuer des devoirs de lecture et d'écriture. Ainsi de ce jeune homme interpellé en 2007 pour avoir fêté le départ d'un proche au service militaire en tirant des coups de feu en l'air. Le tribunal l'a condamné à lire pendant au moins 4 heures par mois sur une durée d'un an. Anonyme ou célébrité, personne n'est épargné. La chanteuse Demet Akalın s'était moquée des Kurdes pendant un concert à Bodrum. Eh bien, un juge a condamné la star à recopier l'hymne national, puis à en proposer un commentaire argumenté sur 5 pages à soumettre à la cour.
La saison touristique a déjà commencé en Italie, mais pour une île, l'île du Giglio, cette année a une saveur particulière. Voilà tout juste 1 an que la carcasse du Costa Concordia, le navire qui avait fait naufrage en 2012, a été évacuée. Curieusement, le drame qui avait fait la une des télévisions mondiales avait aussi généré un tourisme morbide. Aujourd'hui, les habitants sont soulagés de tourner la page, mais craignent aussi de tomber dans l'oubli. C'est le reportage de Mathilde Villain.
Sur les murailles du château, depuis le belvédère du phare ou sur la jetée du petit port du Giglio, le 23 juillet 2014, tous les habitants de l'île Toscane avaient déjà choisi leur emplacement à l'avance pour assister au départ de l'épave du Costa Concordia, bateau de croisière géant échoué sur les rochers depuis plus de 2 ans. Ce jour-là, Alvaro Andolfi, responsable du port du Giglio, regardait lui aussi fixement l'horizon alors que l'énorme épave n'était déjà plus qu'un petit point blanc.
En 1799, le Giglio a été victime d'un assaut des pirates qui rôdaient alors en Méditerranée. Ils arrivaient sur les îles, pillaient tout et réduisaient la population en esclavage. Mais nous, en 1799, nous nous sommes défendus et nous sommes parvenus à repousser ces pirates turcs. Et je compare cette journée-là, du 19 novembre 1799 au 23 juillet 2014. Les pirates à cette épave, à ce monstre qui finalement abandonne l'île, après avoir été amené ici par une stupidité humaine jamais vue avant.
Avant la tragédie du Costa Concordia, l'île du Giglio était bien moins connue que certaines de ses six sœurs de l'archipel toscan, notamment de son aînée, l'île d'Elbe, où Napoléon choisit de se retirer en exil. Mais le Giglio n'en a pas moins eu une histoire mouvementée jusqu'à se retrouver, en janvier 2012, au cœur de l'actualité internationale, après le naufrage tragique du géant des mers, Fleuron, de la compagnie italienne Costa Croisière. L'île a vu sa vie bouleversée, un véritable traumatisme, analyse Virginie, une touriste française qui vient en vacances depuis plus de 40 ans.
Ça a quand même bouleversé l'île. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup d'aspects en fait, qui ne sont pas ressortis, qui vont ressortir. Mais c'est quand même une île où il y a 1400 résidents. Ils se sont retrouvés avec 4000 personnes un soir comme ça, en plein milieu de l'hiver. Ça a été vraiment bouleversant. Cet événement restera, à mon avis, toujours gravé dans le cœur des Gilios, des Giliers, c'est pardon. Mais il faut aller de l'avant.
Aujourd'hui, le maire du Giglio, Sergio Ortelli, fait les comptes. L'épave n'est plus là, mais tout n'a pas encore été remboursé. Les procès ne sont pas terminés et il craint que la tragédie n'ait entaché l'image touristique du Giglio.
Le tourisme a peut-être un peu changé, mais pas l'île du Giglio. Nous sommes restés nous-mêmes parce que nous sommes des gens de la mer et les gens de mer sont faits comme ça. On cherche à retrouver la normalité avec humilité et l'île est fondamentalement comme ça. Elle cherche à continuer de faire ce qu'elle a toujours fait, accueillir de la meilleure façon possible. Je crois, et je suis très sincère à ce sujet, que personne ici n'a jamais spéculé sur la tragédie, parce que cet événement n'aurait jamais dû arriver, parce qu'il y a eu des victimes, parce que cela a fait souffrir beaucoup de monde, et cela ne nous a pas enrichis économiquement. Je tiens vraiment à souligner que les tragédies ne portent jamais chance.
Les tragédies ne portent jamais fortune.
Certains commerçants du port reconnaissent pourtant que leur chiffre d'affaires a augmenté pendant les 2 ans de travaux pour redresser l'épave du Costa Concordia. La raison est simple, d'ordinaire, ils ne travaillaient que pendant la saison estivale, pas pendant l'hiver. Mais cet été, les touristes se font rares, s'inquiète Ilva Danaï. Elle gère une location de bateaux sur l'île.
Outre le tourisme nature, l'île n'offre pas vraiment d'autres sources de divertissement. Les touristes qui viennent sur l'île du Giglio viennent parce qu'ils aiment la nature. Espérons qu'ils reviennent cet été. Parce que, mis à part l'effet post-concordia, il faut aussi prendre en compte la crise économique. On verra, mais on a bon espoir.
On ressent une pointe de nostalgie sur cette île qui a vu débarquer le monde entier. Les habitants du Giglio ont beau y être habitués, ils ont toujours un pincement au cœur quand le dernier ferry lève l'ancre. Mais, enfin seuls, ils se retrouvent volontiers pour chanter ensemble et exalter leur île et les valeureux exploits de leurs ancêtres face aux invasions de pirates.
Mio Giglio, ti vedo più bello dal porta al castello, dorato dal sole.
Un reportage sur l'île du Giglio, signé Mathilde Villain. Les Somaliens de Finlande, le titre de ce livre est d'une sobriété à toute épreuve, mais c'est le premier du genre à explorer en Finlande une nouvelle facette de la société. L'ouvrage a reçu un très bon accueil dans les médias, car les Somaliens sont la 4e communauté immigrée de Finlande. Bonjour Pauline Curté.
Bonjour Frédéric.
16 000 Somaliens donc, mais les Finlandais les connaissent finalement très peu.
Oui, ou plutôt ils font l'objet de grands nombres de clichés. D'après de nombreuses enquêtes d'opinion réalisées auprès des Finlandais, les Somaliens ne travailleraient pas suffisamment, ils ne parleraient pas le finnois et auraient bien du mal à s'intégrer. Et c'est pour cela que ce livre est nécessaire. Ces trois auteurs, Youssouf Moubarak, un expert en télécommunications chez Nokia, d'origine somalienne, épaulé par deux chercheurs spécialistes de l'Afrique, ont interviewé plus d'une centaine de personnes, des Somaliens de Finlande et des experts du sujet, pour établir des faits là où ne se trouvaient jusqu'à présent que des clichés.
Alors justement, quelles informations apprend-on dans ce livre ?
Eh bien d'abord, il y a quelques chiffres. 8000 personnes d'origine somalienne possèdent la nationalité finlandaise et parlent donc le finnois, estiment les auteurs du livre. Et chiffre assez frappant, près de la moitié des Somaliens de Finlande sont au chômage. Mais au lieu de s'attarder sur des chiffres, Youssouf Moubarak et ses co-auteurs ont cherché à décrire le vécu des Somaliens de Finlande. Ils parlent de tout, sans tabou. L'alcool, très peu populaire chez les Somaliens, alors que les Finlandais en boivent dans de nombreuses situations sociales. Le voile, porté par de nombreuses femmes somaliennes, pour des raisons religieuses et non culturelles, rappelle Youssouf Moubarak. Ou encore, l'excision. Cette pratique de mutilation génitale des femmes est très peu répandue dans la communauté somalienne de Finlande, contrairement aux idées reçues. Et puis, il y a le ressenti, des sentiments glanés par les auteurs du livre au cours de leurs interviews. Beaucoup de Somaliens, même ceux qui sont nés en Finlande, se sentent différents et souvent exclus de la société.
On peut tout de même imaginer, Pauline, que la situation s'est améliorée depuis l'arrivée des premiers Somaliens en Finlande dans les années 80.
Eh bien, c'est surprenant, mais d'après les auteurs, pas vraiment. Bien sûr, les Finlandais sont plus habitués à voir des personnes à la peau noire, surtout dans des grandes villes comme Helsinki. Mais pour les immigrés arrivés récemment, l'adaptation reste très difficile. Le livre nous apprend d'ailleurs qu'il existe un mot somalien, ironique, pour qualifier ces immigrés, souvent jeunes, qui n'ont connu que la guerre et ne savent souvent ni lire ni écrire. On parle d'eux comme des Titanics, parce qu'ils ont dû difficilement traverser la Méditerranée pour atteindre la Finlande, et parce qu'à leur arrivée, leur intégration est un naufrage. Ceci étant dit, il y a quand même du positif. La plupart des Somaliens interviewés estiment que le système scolaire est très bien fait en Finlande et que les enfants de la communauté ne sont pas, ou très peu, victimes de discrimination. Et puis, les ponts culturels entre les Finlandais et les Somaliens ne sont pas complètement inexistants. Par exemple, plus du trois quarts des Somaliens de Finlande ont déclaré qu'ils mangeaient régulièrement du pain de seigle. Lorsque l'on connaît l'amour des Finlandais pour ce type de pain, c'est un point commun non négligeable.
Merci Pauline Curté, les Somaliens de Finlande.
Merci Frédéric, à bientôt.
C'est l'histoire d'un clash musical mettant aux prises la Bulgarie et Hollywood. Une des chansons traditionnelles bulgares s'est en effet retrouvée dans la bande-son d'un blockbuster intitulé « À la poursuite de demain ». Manquait juste un détail, le paiement des droits d'auteur à Sofia Damian Vodenicharov.
Izleo et Deluhei Dutin, c'est le nom de cette chanson que tout le monde connaît, non seulement en Bulgarie ou dans le monde, mais aussi dans le cosmos. Le morceau fait en effet partie de la bande musicale embarquée par les deux sondes Voyager qui ont quitté le système solaire et naviguent à travers les étoiles à la recherche d'éventuelles civilisations extraterrestres. Mais retournons sur Terre, cette version de la chanson traditionnelle, interprétée par Valia Balkanska, est connue de tous. Impossible donc de ne pas remarquer cette voix dans la bande-annonce du film « À la poursuite de demain » avec George Clooney. Ce n'est pourtant pas l'avis des producteurs du film qui avaient tout simplement oublié de payer les droits d'auteur. Le compositeur Thomas Bergersen, dans son morceau Creation of Earth, s'était contenté de pirater la voix. Il est difficile de plaider l'erreur de débutant, car avec son collectif Two Steps from Hell, le producteur norvégien a signé des compositions pour des blockbusters tels que les Avengers, The Dark Knight, Le Chevalier Noir, Man of Steel ou Breaking Bad. Thomas Bergersen s'est finalement excusé auprès de la chanteuse bulgare. Il aurait tenté d'obtenir des droits d'auteur du collectif de musique traditionnelle Le Mystère des Voix Bulgares, qui ne les détient pas. Resté sans réponse, il aurait donc pensé que le morceau était passé dans le domaine public. Mais l'histoire ne finit pas là. Après ses excuses publiques dans les médias bulgares, l'interprète était en droit d'attendre quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. En vain ! Les droits d'auteur n'ont toujours pas été versés. Valia Balkanska est prête à porter plainte. Pour elle, ce n'est pas une question d'argent, mais de respect du patrimoine culturel bulgare. On attend donc le troisième acte de cette saga hollywoodienne.
L'Europe était réalisée aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, sur Facebook et sur Twitter. À demain.